Aujourd'hui, 11 novembre, nous célébrons l'armistice de la guerre de 1914-1918, mais dans le calendrier liturgique, nous faisons mémoire de Saint Martin de Tours, évêque. Pour en parler, nous accueillons l'abbé Philippe Beitia. Bonjour.
Bonjour.
Saint Martin de Tours, l'apôtre des Gaules, mais qui n'était pas gaulois.
Effectivement, il naît dans une région qu'on appelait la Pannonie autrefois, qui correspond à l'actuelle Hongrie. Il naît dans une famille. Son père et sa mère sont païens. Et très rapidement, c'est un caractère déjà, très rapidement, dans sa préadolescence, ce qu'on appellerait aujourd'hui la préadolescence, à l'époque ça se posait d'une autre façon, eh bien, il va se convertir au Christ, devenir chrétien et être baptisé.
À quelle époque se situe la vie de Saint Martin de Tours ?
Alors, elle se situe au IVe siècle. Alors, il naît en 316, d'aucuns le font naître en 336, mais pour d'autres raisons. Et il meurt assez âgé, puisqu'il meurt vers la fin de ce IVe siècle.
Qu'a fait Saint Martin d'extraordinaire dans sa vie pour être saint ?
Alors, d'abord, il est. Son père est militaire, et bien sûr, il va pousser le fils à entrer dans l'armée roumaine. Et déjà là, Martin se révèle être un chrétien dans cette armée. Bon, il a un certain grade, un petit grade, mais enfin, un grade quand même. Et donc, il a droit, par exemple, à un serviteur. Et Sulpice Sévère, qui est l'auteur contemporain de Saint-Martin, qui va écrire sa vie, nous dit que ce serviteur, il va le traiter comme un frère. Donc voilà, il ne va pas agir comme on agit dans l'Empire romain, mais voilà, déjà il montre cet exemple de charité. Et puis bien sûr, il y a cet épisode très connu du pauvre Damien. Si vous allez à Amiens, un endroit donné, on vous indique, puisque c'est à une porte de la ville que ça s'est passé, que c'est à cet endroit que Saint-Martin a donné, lors d'un hiver particulièrement rigoureux, la moitié donc de sa chlamyde, de sa cape, donc un pauvre qui se trouvait là. Et bien sûr, à l'époque, il n'est que catéchumène, on se prépare au baptême, et dans la nuit, il a une vision du Christ en songe et il voit Jésus revêtu de ce manteau et Jésus dire « Martin qui n'est que catéchumène m'a revêtu ». Bon, et donc ça fait allusion à l'épisode du jugement dernier de Matthieu 25 qui est proposé lorsqu'on célèbre plus spécialement Saint-Martin.
J'étais nu et vous m'avez habillé, J'avais faim, vous m'avez donné à manger, etc.
Exactement.
Mais il ne donne que la moitié de son manteau.
Il donne la moitié de son manteau, c'est quelque chose d'administratif, il ne peut pas le donner tout entier. Donc, voilà, il donne...
Parce que l'autre moitié appartient à l'Empire romain, c'est ça ?
Quelque chose comme ça, voilà. Donc, il donne ce qu'il peut. Mais... J'imagine, ça devait pas être une petite, ça peut être pas être une petite cape.
C'était pas un petit gilet.
Voilà. Donc, sûrement que le pauvre Damien, en a bénéficié.
Militaire, il est catéchumène et ensuite il devient évêque. Donc, il a quand même un sacré parcours.
Oui, militaire. Comme chrétien, à un moment donné, il va considérer que c'est pas cohérent. Voilà, parce qu'il y a le culte de l'empereur, donc il va démissionner de l'armée, un peu avec pertes et fracas. Il va y avoir plusieurs choses. D'une part, on est à une époque où il y a ce qu'on appelle l'arianisme, c'est-à-dire une doctrine inspirée de la philosophie grecque qui considère que Jésus est un dieu de seconde catégorie qui n'est pas sur le même plan que le Père, qui n'est pas consubstantiel au Père. Donc, bien sûr, le concile de Nicée va bien sûr résoudre cette question, hein, de dire que voilà, ce qu'on a dans le credo, vrai Dieu, né du vrai Dieu, lumière, né de la vraie lumière, bon, consubstantiel au Père. Donc, mais voilà, une partie de l'Église, et notamment de l'épiscopat de l'époque, est arien. Donc, Martin va défendre la foi catholique, non, la divinité du Christ. Donc, il va tenter de convertir ses parents, il va les revoir, bon, sans y parvenir. Il va aller à Milan pour proclamer la divinité du Christ. L'évêque de Milan, prédécesseur de saint Ambroise, mais est un arien, bon, qui le fait battre. Donc voilà, il y a d'abord cela. Et il y a, bien sûr, chez lui, comment dire, le désir d'une vie religieuse et communautaire. Mais en Gaule, on n'a pas grand-chose de ce point de vue-là. Donc il va aller dans le diocèse de Poitiers, où il y a l'évêque Saint-Hilaire, bon, qui a défendu la divinité du Christ, qui a été exilé pour cela. Donc, ben voilà, il va commencer donc une vie de communauté et aussi d'évangélisation des campagnes qui sont païennes.
Et il fonde le premier monastère.
Est-ce qu'on peut parler de cette façon-là bon, ça, c'est peut-être un peu anachronique, mais il fonde. Il y a Martin, il y a des disciples qui vivent ce qu'on appellerait aujourd'hui la vie religieuse.
Alors Saint-Martin de Tours a donné son nom à de nombreuses églises. Je crois que c'est un des, après la Vierge Marie, c'est un des vocables les plus utilisés dans les églises en France.
Non seulement dans les églises, mais aussi dans les patronymes français. Des Martins, vous avez des Kyrielles. Donc ça manifeste le fait que il y a beaucoup d'églises qui lui soient consacrées. Et le fait qu'il y ait beaucoup de patronymes du nom de Martin, si je puis dire, manifeste effectivement l'influence spirituelle qu'il a pu avoir et l'admiration qu'on a pu avoir pour cet homme.
On le qualifie d'apôtre de la Gaule.
On le qualifie d'apôtre des Gaules, à telle enseigne qu'à un moment donné, eh bien, on célébrera deux fêtes, le 11 novembre, qui est la fête de sa déposition, c'est-à-dire il est mort quelques jours auparavant de sa mise au tombeau, et aussi le 4 juillet, la fête de son ordination et quelques ordres religieux ont gardé très longtemps cette fête du 4 juillet, parce que bon, il a contribué donc à évangéliser les campagnes.
Saint-Martin de Tours, apôtre des Gaules, et les orientaux l'appellent Saint-Martin le Miséricordieux.
Saint-Martin le Miséricordieux, on arrive à le comprendre à travers donc l'épisode du pauvre Damien. Par ailleurs, bon, Sulpice Sévère nous laisse entendre bon, que sa générosité ne s'est pas limitée à ça. Que, bon, s'il a donné une part de son manteau, c'est que les sous qu'il avait, il les avait aussi donnés préalablement.
Donc s'il faut retenir un élément de la vie de Saint-Martin de Tours, c'est donc sa générosité, sa miséricorde et le partage qu'il a effectué envers le pauvre en lui donnant la moitié de son manteau.
Et aussi le souci de l'évangélisation. On peut aussi retenir sa simplicité. Bon, comme beaucoup de saints de cette époque, il ne voulait pas être évêque. Mais voilà, quand l'évêque de Tours meurt, mais à Tours, c'est une époque où les chrétiens choisissent leur évêque. À Tours, ben on le veut comme évêque. Donc on va ruser, on va dire qu'il y a une femme, une vieille femme qui est malade et qui veut le voir. Donc il prend son char et tandis qu'il arrive, on l'acclame comme évêque. Et ben il n'a pas d'autre solution que de se faire ordonner. Mais il n'a pas beaucoup soigné son costume. Et bon, c'est... Pour ses confrères de l'époque, ils ne sont pas très contents de ce choix du peuple chrétien de Tours. Et il va vouloir vivre sa vie d'évêque comme moine, si on peut dire.
On vénère toujours, bien sûr, Saint-Martin à Tours.
Oui, alors c'est très impressionnant à Tours, quand vous y allez. On nous montre les traces de l'ancienne basilique de Saint-Martin qui couvre deux rues. Bon, l'actuelle est plus petite, on y a bien sûr quelques reliques, un bout du crâne de Saint-Martin, etc. Mais le pèlerinage de Tours a été très 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 fréquenté, parce que bon, on venait prier en Saint-Martin, mais il y a eu aussi beaucoup de guérisons là, et des personnages très célèbres, par exemple comme la reine Clotilde, qui s'est retirée près du tombeau de Saint-Martin.
Merci beaucoup, Abbé Philippe Beita, de nous avoir parlé donc de Saint-Martin de Tours, évêque, mort en 397 et dont nous fêtons la mémoire le 11 novembre. Merci à vous.
Merci.